un coup de téléphone à 18h45 à peu près. Si on avait bien une maison à la faute, oui, on y est actuellement. Et ben voilà, elle vient de passer en zone noire.
Ce qui veut dire que votre maison va être rasée?
Non, déconstruite. Il faut jouer sur les mots. L'effet psychologique n'est pas le même.
D'abord, il faut dire que les otages sont entre les mains d'un groupe qui est extrêmement dangereux et politiquement est très extrémiste.
Les spécialistes ont raison.
Il faut reconnaître que dans cette partie du désert, on sait quasiment en temps réel où se trouvent les groupes terroristes.
Il n'y a pas plus d'une centaine d'hommes sur un millier de soldats dans Acmi en général.
Il faut quand même savoir ce que l'on cherche, vers où ils sont partis, parce que le Sahara est grand.
Non, avec le président de la République, nous ne renoncerons pas. Dans ce non ferme et tranquille, il n'y a aucun orgueil.
Si on veut une retraite à taux plein, il faudra aller jusqu'à 65, voire 70 ans et sucrer des fraises. On se demande qui c'est qui sera malade après.
Une femme kamikaze projette de se faire exploser à Paris. Voilà l'information qui a atterri au ministère de l'Intérieur.
En France, une femme, quand elle est moins payée qu'un homme, ça ne choque pas, ça fait pas la une des journaux.
Que Jeannette Bougrabe se rassure, les producteurs animateurs de cette émission sont logés à la même enseigne. Mais s'il est un programme qui n'a pas de prix, c'est bien l'incisif et facétieux journal sonore de Yacine Bouzard. Merci à lui.
C'est vous qui le dites, Martin. Bonsoir à tous. Vous écoutez les Retours du Dimanche.
Bonsoir Agnès Chauveau.
Bonsoir Martin Kénéen.
Oui. Nous avons ces derniers jours tout entendu concernant les rivages impalpables du Sahara, ce Sahel aux dunes mobiles et aux acacias desséchés. C'est que sur les pistes ocres d'un rouge latéritique flotte une odeur de cordite et de sang qui nous prend singulièrement à la gorge, nous Français.
Les faits sont là. 4 touristes assassinés en Mauritanie à l'hiver 2007. Le Vosgien Pierre Kamat, pris en otage au Mali avant d'être libéré en février dernier. Le vieil humanitaire Michel Germano, capturé au Niger et exécuté en juillet. Et puis, les 7 employés d'Areva enlevés à Arlit la semaine dernière. Sans parler des marins qui viennent de disparaître au large du Nigeria. Et dire qu'ACMI, Al-Qaïda au Maghreb islamique, nous promet pire encore.
Voilà quelques-unes des raisons pour lesquelles ce soir, les Retours du Dimanche s'intitulent « Rouge Sahel ». Mais il en est une autre, notre invité, qui n'est pas un spécialiste portant barbouze ou une quelconque blouse siglée aux initiales du CNRS, notre convive a d'autres attributs. Le stéthoscope d'un médecin malgré lui, le bâton d'un ex-ambassadeur de France au Sénégal et en Gambie, et puis la plume, l'épée et l'habit d'un immortel. Jean-Christophe Ruffin chantera pour nous les armes et les hommes du Sahel, mais aussi les heurts et malheurs de la diplomatie france-africaine.
Au cours de notre émission, le choc esthétique essuiera la colère d'Armand à Beaubourg en compagnie du commissaire d'exposition Jean-Michel Bourg. Le kiosque refera la grève en lisant les journaux et les chemins qui mènent ailleurs prendront en chasse quelques Tchétchènes gyrovagues. Mais tout de suite, direction le désert.
Un kilomètre au moins séparait le guetteur de son vis-à-vis sur la berge opposée du canyon. L'autre venait d'accomplir des gestes identiques, la tête orientée dans la même direction, comme des centaines de millions de croyants dans le monde. Dans ce désert nu, absolument hostile à la vie, le moment de la prière convoquait toute une multitude autour du solitaire. La sentinelle reprit sa kalachnikov, un modèle court à crosse pistolet, écaillé par d'innombrables chocs. Il la reposa sur ses jambes croisées en tailleur. En contrebas, la gorge était en partie plongée dans l'obscurité. Quand les gardes, sur les crêtes, pliaient déjà les chines sous la chaleur du désert, ceux d'en bas, dans la dernière ombre de la nuit glaciale, frissonnaient encore. Dans l'air immobile du campement, on entendait grincer les portières des voitures. Elles étaient dissimulées sous un auvent naturel de la falaise. Les eaux torrentueuses de l'Oued l'avaient creusée à la saison des pluies. Le reste de l'année, les vents chargés de sable qui remontaient la gorge achevaient de le polir. Sous cette protection, les véhicules étaient invisibles du ciel. Un camp de combattants islamistes, qu'on appelle Katiba en Afrique du Nord, change sans cesse de lieu et d'effectif. En dehors des actions terroristes qu'elle mène, une Katiba sert à l'entraînement de nouveaux maquisards, recrutés dans toute l'Afrique de l'Ouest. La plupart espèrent repartir dans leur pays, à l'issue de leur séjour, pour y mener le djihad.
Merci Soline Le Désert. Bonsoir Jean-Christophe Ruffin.
Bonsoir.
Jean-Christophe Ruffin, Soline Le Désert vient de nous lire un extrait de votre dernier ouvrage qui s'intitule précisément Katiba, du nom des camps des djihadistes sahéliens. Pouvez-vous nous décrire et nous dire ce que vous avez ressenti ou imaginé dans ces lieux aujourd'hui sous les feux de l'actualité ?
D'abord, je suis un petit peu étonné, pas vraiment étonné, mais en tout cas bouleversé d'avoir été aussi vite rattrapé par l'actualité. Parce que quand j'ai écrit ce livre, l'an dernier, et quand je l'ai publié au printemps, c'est vrai qu'on n'était pas très nombreux à s'intéresser à cette région du monde et surtout à savoir ce qui s'y passait. Et donc, il y avait déjà des prises d'otages. Vous avez mentionné des prises d'otages de Français, mais il ne faut pas oublier qu'il y a eu beaucoup d'autres gens. Il y a eu des Espagnols, il y a eu des Autrichiens, il y a eu des Italiens, etc. Mais ces prises d'otages étaient considérées comme une espèce de banditisme traditionnel dans ces régions. Et il n'y avait pas cette dimension politique. Tout au moins, on ne la connaissait pas. Et moi, j'en étais, j'allais dire, imprégné. Donc, quand j'ai écrit ces livres, effectivement, c'était avec... la conviction qui se développait là-bas, quelque chose qui allait devenir un véritable sujet. Mais j'étais encore très isolé, si je puis dire. Et puis là, les choses se précipitent et il est évident qu'on a dans cette région quelque chose qui est maintenant une évidence pour tout le monde.
Et alors, en tant qu'écrivain peintre, comme vous avez pu vous décrire, Jean-Christophe Ruffin, est-ce que vous avez visité ces katibas, ces campements de djihadistes ?
Non, si je les avais visités, il aurait fallu sans doute payer très cher ou envoyer pas mal de monde pour me chercher, parce que je pense que capturer un ambassadeur de France, pour eux, ça serait vraiment une très bonne prise, si vous voulez. Non, je ne les ai pas visités directement, mais il se trouve que par le biais des contacts et des services dont j'avais la responsabilité, nous observions par tout un tas de moyens sur lesquels, pas s'étendre, mais nous observions ces mouvements. Donc j'avais énormément de documents, si vous voulez, qui provenaient, j'allais dire, de ces observations. Bon, et puis, il y a eu un fait qui a pour moi déclenché les choses, parce que ça a rendu les choses très, très, très concrètes. C'est l'assassinat des quatre Français que vous avez mentionné en Mauritanie, 24 décembre 2007. Tout simplement parce qu'il y avait un survivant, que ce jour-là, comme c'était Noël, il n'y avait pas grand monde, etc. Moi, j'étais au bureau et j'ai proposé de le faire rapatrier sur Dakar, parce qu'il était dans une situation assez critique et on craignait qu'il ne puisse pas supporter le voyage jusqu'à Paris. Il est venu à Dakar et donc j'ai accueilli en pleine nuit cet homme qui avait reçu une balle et qui ne savait pas encore que sa famille qui était avec lui était entièrement morte. Et donc le dialogue avec lui était extrêmement concret. Je veux dire que c'est pas moi qui avais reçu la balle, mais d'une certaine manière, j'ai été touché presque directement par cet épisode. Bon, puis après, évidemment, comme les responsables de l'attentat sont venus au Sénégal, on les a suivis aussi de très près. Donc, si vous voulez, tout ça, ça m'a donné, ça m'a impliqué personnellement dans cette affaire. C'est pas pour moi un sujet théorique, c'est vraiment un sujet que je sens comme très proche pour moi.
Jean-Christophe Ruffin, on parle beaucoup de la violence dans cette région, on parle de l'islam radical et politique, comme vous le disiez, qui serait une nouveauté dans le combat de ces coupeurs de route, mais il y a aussi un islam traditionnel de longue date dans ces contrées. Vous, au Sénégal, vous avez pu notamment fréquenter, je pense, les mourides du Sénégal. Y a-t-il des cérémonies, des rituels émouvants auxquels il vous a été donné d'assister ?
Oui, beaucoup. D'ailleurs, il n'y a pas que les mourides. Les mourides, c'est la confrérie la plus sénégalaise. Mais vous avez les tidianes qui sont très importants, qui sont majoritaires d'ailleurs encore au Sénégal et qui sont très reliés à l'islam marocain notamment. Et vous avez d'autres confréries comme les niassènes qui ont la particularité d'avoir des adeptes dans l'ensemble de l'Afrique de l'Ouest, jusqu'au Nigeria, jusqu'en Mauritanie. Par exemple, l'ancien président mauritanien était un niassène. Et pourtant, le centre est au Sénégal. Donc je les ai tous presque rencontré. Bon, il s'est passé d'ailleurs quelque chose d'assez curieux, c'est que quand j'ai rencontré le grand khalife des Mourides, qui est mort peu de temps après, c'était le dernier fils du fondateur, il était très âgé, et bon, je suis rentré chez moi, et puis il s'est rien passé, enfin c'était une rencontre très émouvante, parce que c'est un personnage spirituellement très, très impressionnant. Et puis au bout de 8 jours, ma femme me dit, mais c'est quand même très curieux, tu bois plus du tout, j'étais pas alcoolique, mais enfin j'étais comme tout le monde, un coup de temps en temps, et depuis le 6 décembre 2007, date de cette rencontre, je n'ai plus touché une goutte d'alcool.
Donc vous êtes converti à l'islam, Jean-Christophe Ruffin ?
Les Sénégalais sont persuadés que j'ai été marabouté, ils en sont d'ailleurs très fiers, moi je ne sais pas, mais en tout cas, et je ne me suis pas converti à l'islam, mais simplement, je pense qu'il y a une influence spirituelle peut-être qui s'est exercée, et voilà, c'est une des nombreuses rencontres très fortes avec ces phénomènes. Mais enfin, Ça, c'est sénégalais, hein, c'est pas dans le reste du Sahara.
Donc, Jean-Christophe Ruffin, parlons d'ACMI, Al-Qaïda au Maghreb islamique. Comment et pourquoi ces coupeurs de route se sont convertis à l'islam radical? On dit qu'il s'agirait environ d'un millier d'hommes. Quels sont les rapports entre les différentes branches et les rapports avec la population locale?
Moi, j'appellerais pas ça des coupeurs de route, parce que d'abord, il n'y a pas de route. Et puis, si vous voulez, au fond, au départ, ça s'est fait dans l'autre sens. Ce sont plutôt des musulmans radicaux, des islamistes purs et durs, qui se sont transformés en bandits du désert, si vous voulez. C'est plutôt dans ce sens-là. C'est-à-dire qu'en fait, ce sont des gens qui étaient des combattants issus de la première guerre civile algérienne, on pourrait dire celle qui a eu lieu après l'annulation des élections 92, etc., avec les GIA, avec cette montée de la violence, avec la répression, qui a combattu ces islamistes et qui les a repoussés, soit dans les montagnes du nord, bon, où ils sont encore d'ailleurs, et où est toujours le chef d'ailleurs du mouvement, soit dans le sud, dans les espaces sahariens, parce que bon, ils se sont réfugiés par là. Et ce qui est très intéressant, c'est que les Katibas, c'est-à-dire ces groupes, quand ils sont arrivés dans le Sahara, ils ont changé de nature, parce que tout d'un coup, ils n'avaient plus en face d'eux l'armée algérienne. Donc, ce n'étaient plus des combattants d'un combat national algérien, si vous voulez. Ils se sont retrouvés dans un espace fragmenté entre différents pays, etc., avec des Occidentaux qui étaient là, qui prenaient en otage, etc. Donc, ils se sont retrouvés avec des moyens, parce que bon, beaucoup de gens ont payé des rançons, il faut le savoir quand même. Et ils se sont retrouvés avec, j'allais dire, une sorte de respiration beaucoup plus djihadiste, c'est-à-dire en se disant « mais notre ennemi, ce n'est pas l'armée algérienne, c'est l'Occident ». Et au fond, c'est à ce moment-là qu'ils se sont dit « mais nous sommes un courant du djihad mondial ». Et c'est à ce moment-là qu'ils se sont eux-mêmes intitulés Al-Qaïda au Maghreb. Parce que Al-Qaïda, ça ne veut rien dire. Ce n'est pas parce qu'ils s'appellent Al-Qaïda qu'ils sont reliés à Ben Laden ou à un centre direct. Bon, il y a probablement un lien quelque part, mais il n'est pas fonctionnel. Il n'y a pas un type quelque part dans les maquis du Pakistan qui appuie sur un bouton et qui actionne ACMI. Ce n'est pas comme ça. Simplement, ils font partie de cette mouvance parce que simplement, ils ont changé d'objectif et ils sont devenus vraiment djihadistes à part entière.
Mais toutes ces branches sont rivales.
Ce qui se passe, c'est qu'à l'intérieur du mouvement, si vous voulez, il est très difficile de maintenir l'unité parce que bon, ils sont théoriquement sous l'autorité de l'émir central d'El-Malek Droukdal qui se trouve dans les maquis du Nord. Mais enfin, logistiquement, c'est compliqué parce que, si vous voulez, ils ne peuvent pas communiquer facilement. Les espaces sont immenses. Et donc, ces katibas du Sahara, elles ont acquis, en gros, une certaine autonomie. Et au fond, bon, rivalité... Je ne sais pas si on peut parler de rivalité, en tout cas différence profonde. Et c'est vrai que le chef, le petit chef, puisque ce n'est pas le chef suprême sur place, bah, il est beaucoup plus autonome, si vous voulez, que s'il était à 20 km ou à 10 km ou à 200 mètres de son vrai chef, si vous voulez. Il fait un peu ce qu'il veut.
Alors à propos de ce petit chef, Jean-Christophe Ruffin, les médias ne parlent plus que d'Abou Zaïd, présenté comme le stratège froid d'ACMI dans le Sahel et l'auteur des enlèvements, notamment de Français. Mais vous, Jean-Christophe Ruffin, en tant qu'écrivain, comment l'imaginez-vous? Quel personnage deviendrait-il sous votre plume? Quel djinn ou quel démon animerait ce triste sire?
Bon, ça fait longtemps qu'on le connaît, cet Abou Zaïd, qu'on suit son parcours, etc. Ils sont deux principaux. Hein, il y a deux katibas principales. Donc, et Mokhtar Belmokhtar, à travers le personnage que j'ai appelé Kader Belkader, en fait, qui est vraiment directement inspiré de l'autre chef, qui lui est beaucoup plus un peu voyou, trafiquant, etc. Bon. Abou Zaïd, c'est vraiment l'islamiste, j'allais dire, pas de caricature, ce serait méchant pour lui, mais enfin, disons, tel qu'on peut l'imaginer, c'est vraiment l'esprit relativement étroit, l'homme qui s'est engagé depuis très longtemps, qui a cette espèce de violence, de cruauté, de fanatisme au sens où il cherche à faire du prosélytisme, même avec les otages qu'il détient. Il essaie de les faire convertir, etc. Il y a une espèce de... C'est vraiment quelqu'un qui vit pour cette passion fanatique, si vous voulez. En même temps, il y a une chose qui est très intéressante dans ces mouvements, et en particulier chez lui, c'est que ce sont des gens qui sont dans deux mondes. C'est-à-dire qu'ils sont à la fois... d'une certaine manière dans le Moyen-Âge, parce que d'abord les références salafistes sont toutes des références très anciennes, donc la façon de s'habiller, comme le prophète, etc. Bon. Et aussi des techniques de communication du Moyen-Âge, c'est-à-dire qu'ils sont capables d'envoyer un type sur un chameau qui va aller souffler dans l'oreille un message à 200 km pour ne pas se faire prendre. Mais en même temps, ils sont dans le high-tech, c'est-à-dire dans le 21e siècle, en maniant Internet, en étant capables de se servir des technologies les plus modernes. Ils ont les deux aspects, c'est ça qui est fascinant.
« les trafiquants de drogue, trafiquants d'armes, des bandits armés tout court qui sévissent dans le secteur. Là, on a très souvent des accrochages avec ceci. Et avec, bien sûr, les éléments de Al-Qaïda.
Merci, merci.
Très bon entraînement dans une nuit.
Cette archive sonore chantante et crépitante, Jean-Christophe Ruffin, témoigne de la présence de soldats américains, merci beaucoup, dans le désert du Mali et de l'entraînement que proposent ces GIs à l'armée régulière malienne. De fait, le chercheur Jean-François Bayard parle, lui, d'une guerre en Afrique occidentale qui ne dit pas encore son nom, ce dont témoignerait non seulement l'aide militaire aux États sahéliens, mais aussi l'engagement direct de conseillers et de combattants américains et français sur leur sol. Alors, Jean-Christophe Ruffin, si la France est en guerre dans cette région, pourquoi fait-on mine de ne le découvrir que maintenant ?
Non, je crois que, sincèrement, il y a eu une prise de conscience très progressive et il faut voir le point d'inflexion entre l'enlèvement de Pierre Kamat et celui de Michel Germano. Je crois que jusqu'à l'enlèvement de Pierre Kamat, bien sûr, il y avait conscience qu'il se passait quelque chose là-bas, qu'il fallait surveiller ses mouvements, qu'il fallait observer la zone, mais face à une prise d'otage, il y avait l'idée, en gros, que bon, la priorité était à court terme, faire libérer les otages, voire négocier avec les ravisseurs, trouver éventuellement un accommodement avec eux, et puis c'est tout. Donc il n'y avait pas la notion de, j'allais dire, de conflit, et surtout pas une vision géopolitique d'ensemble. Avec Germano, on a vu qu'il y a eu un engagement militaire, bon, trop tard, mais bien probable que Michel Germano, malheureusement, beaucoup d'indices laissent penser qu'il était peut-être déjà mort avant même cette opération. Donc là, il y a vraiment eu une inflexion et un changement. Et en effet, là, un engagement qui est un engagement militaire lourd, si vous voulez.
Pensez-vous que l'action de la France, il y a 2 mois, donc pour tenter de libérer justement Michel Germano, était une erreur ? Tant en ce qui concerne le raid conjoint des services français et mauritaniens contre un campement de l'organisation terroriste, que la déclaration de Nicolas Sarkozy, le crime de Michel Germano ne restera pas impuni.
Bon, c'est toujours très dangereux de faire des déclarations et de montrer les muscles dans ce genre de situation parce que malheureusement, bon, ça rassure 2 minutes, mais les choses sont plus compliquées, plus longues et je crois qu'il faut rester prudent. Donc, en effet, ces déclarations bon, sont sans doute inutilement, j'allais dire, guerrières parce que c'est pas vraiment aussi simple que ça. Mais l'opération elle-même, moi, je pense qu'elle était opportune parce qu'elle a traduit quand même un changement d'attitude, une prise de conscience qu'on n'avait pas là seulement affaire à quelque chose qui était anecdotique ou qui était dramatique simplement parce qu'il y avait un otage retenu, mais qu'on avait vraiment un épisode d'un affrontement, c'est-à-dire de quelque chose de plus large, de plus vaste. Et c'est vrai que, bon, ça c'est en France, c'est-à-dire que c'est notre attitude française, je crois, a changé et tant mieux, on a commencé à réaliser qu'il fallait soutenir des pays comme la Mauritanie qui sont vraiment décidés à agir, qui ont vraiment, qui font de gros efforts alors qu'ils n'ont peut-être pas beaucoup de moyens pour essayer de lutter contre ces mouvements.
Je pense on l'a vu cette semaine, d'ailleurs, il y a eu un affrontement. Voilà. Mais est-ce qu'on ne se dirige pas, Jean-Christophe Ruffin, vers un scénario à l'afghane ou peut-être même à l'irakienne, si la France intervient sur le terrain dans un conflit ouvert, directement à découvert, je dirais, avec ses soldats, avec ses moyens militaires, elle n'a aucune chance de s'en tirer. L'État colonial et même les États autoritaires de la région n'ont jamais réussi à réduire la résistance des hommes du désert.
Oui, enfin, c'est pas l'Afghanistan. Hein. En Afghanistan, ce qui fait toute la difficulté des choses, c'est qu'il y a une population qui, quand même, qu'on le veuille ou non, soutient très largement les talibans et leur sert, j'allais dire, à la fois de base de soutien, etc. Donc c'est cette difficulté. Et puis l'Afghanistan, c'est vraiment un endroit très difficile, très peuplé, très accidenté géographiquement, etc., dans lequel, en effet, là, vraiment, la pacification, entre guillemets, est extrêmement difficile. Dans le Sahara, il faut bien voir à quoi on a affaire. On a affaire à de tout petits groupes, même s'ils ont des liens avec les populations locales, qui sont d'ailleurs rares, parce que quand même, il n'y a pas grand monde. Ce ne sont pas des gens qui sont du tout invulnérables. Donc, je ne crois pas qu'on puisse comparer les deux. Je voulais dire une chose par rapport à l'engagement américain. Parce que l'engagement français, bon, ça, on voit qu'aujourd'hui, ça y est, on a pris conscience qu'il se passait quelque chose de grave et qu'il fallait apporter une réponse. Pour les Américains, il y a eu aussi un point d'inflexion, mais qui a eu une autre origine, en mon sens. Il y a une organisation des Nations Unies qui s'appelle l'ONUDC, Organisation des Nations Unies contre la drogue et le crime, qui est dirigée par un Italien qui s'appelle Costa et qui surveille ces questions de trafic de drogue, criminalité organisée, etc. Et
c'est parce que le désert n'est pas un espace vide, mais bien un carrefour de tous les trafics.
Voilà. Et l'ONUDC a montré, à travers ses rapports réguliers qui sont extrêmement bien faits, ils observent tous ces phénomènes, a défendu la thèse, qui est d'ailleurs controversée, mais enfin, en tout cas, ils l'ont défendue, qu'il existe un lien direct entre le trafic de drogue et le terrorisme dans cette région du monde. Et à partir de là, les Américains se sont dit, on ne peut pas se désintéresser de cette région. Jusque-là, ça ne les intéressait pas beaucoup, parce que le trafic de drogue, de toute façon, c'est de la drogue qui va en Europe, bon, ce n'est pas leur problème. À partir du moment où ils ont compris qu'il y avait là quelque chose qui pouvait les concerner à cause de ce lien, ils se sont engagés et ils ont essayé d'agir.
Vous nous dites pas vraiment de soutien des populations locales. Au fond, est-ce que l'islam est vraiment l'ennemi ? Est-ce que la désignation de l'islamisme comme ennemi principal de l'Occident dans la région et sa répression ne sont-ils pas une façon de renforcer la colère sociale des exclus ?
Ah oui, mais de toute façon, je crois que il n'est pas question de désigner l'islam en tant que tel comme ennemi. Je veux dire, personne, enfin, j'espère en tout cas, ne partira dans cette direction. Ce sont des groupes très très particuliers. L'Algérie, qui est un pays musulman, a combattu cet islamisme, cette forme d'islamisme, qui est une forme de radicalité, qui pourrait exister d'ailleurs dans d'autres religions ou dans d'autres idéologies. Donc, il n'est absolument pas question de faire l'amalgame. Et ce serait une erreur extrêmement grave. Ce sont des groupes très particuliers qui sont peu nombreux. Hein. Alors, ils peuvent utiliser un certain terreau islamique. Par exemple, en Mauritanie, bon, ils recrutent dans une jeunesse qui peut être une jeunesse donc musulmane, un petit peu radicalisée par certains prêches, etc., et qui peuvent être certains d'entre eux tentaient de passer à l'action armée. Enfin, c'est très, très limité. Donc, il ne faut vraiment pas établir un lien entre les deux, parce que ce sont des populations... Enfin, toute cette zone est une zone peuplée de musulmans. Si on leur fait la guerre, c'est une catastrophe.
Vous écoutez France Culture. Ce soir, les retours du dimanche explorent le Rouge Sahel en compagnie de Jean-Christophe Ruffin. Mais tout de suite, c'est l'heure du kiosque, la revue de presse d'Agnès Chauveau, consacrée ce soir au lendemain de grève qui chante « La poudre ».
Eh oui, Martin, comment donner du sens au mouvement social ? Telle est bien la question à laquelle les quotidiens ont dû tenter de répondre cette semaine. Avec toutefois un peu de scepticisme tant sur le mouvement lui-même que sur ses éventuelles conséquences, et ce, quels que soient les clivages partisans. C'est pourtant un climat de révolte que nous prédit Libération. Sondage à l'appui montrant que 45% des Français interrogés se disent révoltés par le contexte économique et social et que 63% affirment soutenir les grévistes. Une révolte vaine, car Libération ne pense pas que la mobilisation arrêtera la réforme. Le seul vrai risque pour le gouvernement étant, selon Laurent Geoffrin, celui d'un souvenir amer et persistant le jour prochain du scrutin d'une réforme dure aux faibles et indolore aux forts. Le Figaro, quant à lui, n'a aucun doute sur l'issue de la réforme, car la grève d'aujourd'hui est davantage l'expression de la tradition syndicale française que celle d'un désaccord frontal avec le pouvoir. Reste donc, pour le quotidien, la journée de manif et de grève, avec cette même constance. Des cortèges formés quasi exclusivement de fonctionnaires et assimilés, des privilégiés de la grogne. La Croix enterre même l'ancien système. Les cortèges, en fait, assureront des funérailles solennelles à la retraite à 60 ans. Sans surprise, seule l'humanité y croit encore. En rappelant la phrase de Nicolas Sarkozy à propos du CPE, quand il y a 3 millions de manifestants dans les rues, il faut retirer un projet de loi, le quotidien communiste espère, serons-nous 3 millions dès aujourd'hui.
Mais alors Agnès, saurons-nous jamais combien de Français ont défilé jeudi ?
Eh bien non. La bataille de chiffres, 3 millions de manifestants selon la CGT, moins d'un million d'après la police, est en guise d'analyse justement au centre des éditoriaux de la presse française. Le Monde observe que le point d'orgue de cette bataille est atteint à Marseille. Là où la police voit 22 000 manifestants, les syndicats affirment eux qu'il y en a 220 000, soit 10 fois plus. Pourtant, poursuit le journal du soir, c'est une question d'une importance capitale. Elle fera dire que le mouvement de protestation s'essouffle ou bien au contraire qu'il s'installe dans la durée. L'Humanité choisit le chiffre le plus combatif, 3 millions, et conclut que c'est la preuve que le pays ne plie pas et qu'il rompt avec le pouvoir. Mais pour le Figaro, l'essentiel n'est pas là. L'essentiel, c'est qu'on ne sent pas dans le pays la grande vague susceptible de faire reculer Nicolas Sarkozy. Les Français ont apparemment compris qu'ils n'étaient plus les seuls au monde et que le fameux modèle social avait besoin d'évoluer pour éviter le grand effondrement.
Mais alors, quelle est l'issue de ce grand charivari, Agnès ?
Libération en une s'interroge. Manif, stop ou encore. Vous vous souvenez sans doute, Plastique Bertrand au début des années 80. Demain, j'aurai 150 ans, qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que je fais? Je m'arrête ou je continue?
J'ai 15 ans, qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que je fais? Je m'arrête ou je continue? J'ai 15 ans, où j'en suis? À la fin ou au début?
Eh bien, face à la détermination du gouvernement à ne rien céder, les syndicats sont condamnés à faire monter la pression sociale en décrétant deux nouvelles journées de mobilisation les 2 et 12 octobre. Les éditorialistes n'ont donc pas fini de compter.
Merci Agnès. Les Français sont en effet un certain nombre, et même un nombre certain, à se mobiliser contre la réforme des retraites. Alors Jean-Christophe Ruffin, parlons réforme. Selon vous, en Afrique de l'Ouest, quelle réforme faut-il envisager au sein de la diplomatie française ?
Ah, j'ai eu peur, j'ai cru que vous alliez me faire parler des retraites.
Mais vous n'y êtes pas, et je crois que vous n'êtes pas prêt de choisir, non, de vous arrêter.
Oui. Non, en Afrique de l'Ouest, mais comme ailleurs, d'ailleurs, je pense qu'il faudrait sans doute rééquilibrer un petit peu les acteurs et faire en sorte que le ministère des Affaires étrangères ait un ministère de la coopération digne de ce nom. Qu'on pourrait appeler le ministère du développement, par exemple, qui ne serait pas forcément celui du précaré, mais qui serait plus orienté vers les pays en développement, que tous ces acteurs reprennent un peu un rôle. Parce qu'aujourd'hui, j'ai l'impression que les affaires africaines se traitent quasiment exclusivement à l'Élysée. Alors, bien sûr, sur le papier, dans la Constitution, c'est le chef d'État qui définit la politique de la nation. Mais enfin, il n'est quand même pas tout à fait normal, si vous voulez, qu'il y ait cette exceptionnalité. Je ne trouve pas ça sain. Et nos partenaires européens, par exemple, avec lesquels il faut travailler en Afrique de l'Ouest, moi, je me suis beaucoup appuyé sur mes collègues européens, espagnols, etc., et aussi les Américains, d'ailleurs, eh bien, ils ne comprennent pas notre façon de fonctionner avec l'Afrique de l'Ouest, ces espèces de réseaux, ces machins pour eux, c'est vraiment d'un archaïsme total. Et je crois que c'est surtout ça dont il faudrait se débarrasser, une fois pour toutes.
Et en même temps, Jean-Christophe Ruffin, on sait qu'on a pu louer votre courage en tant qu'ambassadeur au Sénégal et en Gambie, et notamment votre chutzpé, comme on dit en yiddish, votre franc-parler concernant certaines dérives de la présidence du Sénégalais Abdoulaye Wade, qui n'ont pas été du goût de la présidence elle-même, mais aussi du côté de l'Élysée, et donc de certains réseaux un peu anciens, de ce précaré français en Afrique. Est-ce qu'il faut davantage de franc-parler, à la fois avec nos amis européens et américains, mais aussi avec les chefs d'État dans ces régions ?
Oui, tout à fait. C'est-à-dire que c'est toujours très compliqué quand vous êtes représentant de la France dans une ancienne colonie, parce que si vous agissez comme ça, pour faire des remontrances, etc., vous apparaissez comme un donneur de leçons. Il faut faire attention. C'est pour ça que c'est plus intéressant de le faire avec les Européens ou avec les Américains, avec les Canadiens, enfin avec des gens qui collectivement, si vous voulez, et peut-être d'une façon moins connotée, moins coloniale, si je puis dire, parlent. Et il ne faut pas hésiter à dire des choses.
Mais ça vous a coûté votre poste
africains.
Quand même, Jean-Christophe Ruffin.
Non, parce que moi, je suis resté 3 ans. Non, ce qui m'a plutôt choqué, c'est les conditions dans lesquelles ont pu être éventuellement nommé mon successeur. Moi, j'ai tenu une ligne très, très précise au Sénégal, qui était de dire la France n'a pas à prendre parti. Il y a une vie politique, une vie démocratique dans ce pays, qui est très ancienne d'ailleurs. Nous n'avons pas d'ennemis dans ce pays. Laissons se faire les choses, c'est-à-dire laissons les élections futures faire sortir un vainqueur dans les conditions les plus naturelles possibles. Bon, faisons avec les autres en sorte qu'il y ait une certaine transparence, des garanties pour vraiment une démocratie qui fonctionne bien. Mais c'est tout. C'est pas à nous de désigner un candidat. C'est pas à nous d'avoir le candidat de la France et de le pousser.
Au bout de 3 ans, vous avez jeté l'éponge quand même.
Et au bout de 3 ans...
On a l'impression qu'il y a certains candidats français, Jean-Christophe Ruffin, pas forcément au Sénégal, mais qui,
bien sûr, bien sûr,
voilà, il y a une certaine hérédité qui se perpétue malgré les efforts démocratiques.
Bien sûr, mais moi je pense, si vous voulez, sans être naïf, parce que j'ai quand même eu ces responsabilités pendant suffisamment longtemps pour voir comment les choses fonctionnent, très sincèrement, on n'a pas besoin de ces réseaux. On n'en a pas besoin. C'est une erreur profonde de croire qu'il faut passer par là pour s'occuper des affaires africaines. C'est une erreur. Et je pense que ça nous coûte aussi cher que ça nous rapporte. C'est-à-dire que peut-être que ça nous rapporte certaines faveurs, certains contrats, etc. Et encore, mais ça nous coûte très cher, notamment en crédibilité auprès de nos autres partenaires, notamment européens, qui considèrent qu'on continue là à faire des choses qui ne sont pas dignes. Donc je ne vois pas l'intérêt de maintenir ces réseaux. Voilà.
Dans votre livre, Katiba, la contagion de la menace terroriste sur le territoire français est bien réelle. Frédéric Pechenard, dans une interview à Libération, fait état d'une réelle menace qui pèse sur la France. Tous les clignotants sont au rouge, selon Bernard Squarcini. C'est un scénario plausible, selon vous ?
Moi, je ne crois pas du tout que les groupes sahéliens actuellement aient les moyens d'agir en France. Je veux dire, ça me paraît totalement exclu. Ce sont, bon, ils ont une certaine capacité de nuire et d'agir dans leur zone saharienne, là. Mais agir en France, c'est bien autre chose. Hein. Et ils n'en ont pas la capacité, j'en suis certain. Alors la question est de savoir si d'autres groupes, hein, des cellules qui pourraient exister ici, etc., au nom d'une certaine solidarité islamique, radicale, pourraient se mettre en mouvement pour les soutenir. C'est ça la question. Bon, moi, je n'ai pas d'informations particulières. Je ne sais pas si Frédéric Pechenard en a. Peut-être qu'il en a. Il faut faire très attention parce que ce lien n'est pas avéré. Et les tuyaux plus ou moins crevés des Algériens qui, sans doute, après avoir lu mon livre, d'ailleurs, nous servent le pitch, consiste à dire il y a une femme qui va commettre un attentat en France, hein, des tuyaux des services secrets algériens. Je ne leur ai pas envoyé mon bouquin, mais c'est exactement le scénario. Alors moi, j'ai des doutes. J'ai des doutes sérieux. J'ai des interrogations aussi. La preuve, c'est que j'ai écrit ce livre qui pose la question de savoir si, en effet, il pourrait y avoir cette contagion ou pas. À ce stade, rien ne me montre qu'il y ait un risque aussi lourd qu'on l'a affirmé.
Si le mot culture a un sens, il est ce qui répond au visage qu'a dans la glace un être humain quand il y regarde ce qui sera son visage de mort.
Et maintenant, notre choc esthétique de la semaine nous invite à flâner autour de la Diagonale du Fou d'Armand, célèbre pour ses accumulations. Jean-Michel Bourg, le conservateur du Centre Georges Pompidou, y décrypte quelques œuvres pour nous. Dans cette exposition, il y a des œuvres inédites.
Oui, vous savez qu'il y avait eu une exposition qui avait été faite par le Jeu de Paume en 1998. Donc évidemment, notre ambition, c'était de ne pas reproduire la même exposition. Dans l'exposition de 1998, l'objet arrivait comme ça, comme une chose qui était donnée. Et en fait, j'ai voulu montrer, moi, dans l'exposition, d'où venait l'objet, c'est-à-dire comment Armand va passer de la peinture progressivement à l'objet, en passant par l'empreinte de l'objet. Et puis évidemment, il y a des œuvres, notamment des œuvres monumentales comme la White Orchid, qui est cette grande voiture qu'Armand a fait exploser en 1963 en Allemagne, qui est exposée et qui est évidemment parmi les choses très spectaculaires et qui n'était pas dans les précédentes expositions, puisqu'elle a jamais, c'est une pièce qui n'a jamais été présentée en France.
Et comment fait-on, Jean-Michel Bourg, quand on est commissaire d'expo, pour retrouver des œuvres inédites alors qu'on est en pleine guerre judiciaire, en pleine guerre de succession ?
Effectivement, le contentieux judiciaire a fait qu'une œuvre, mais une sur 120, ça me paraît quand même extrêmement marginal, qui est la NBC Rage, qui est une grande colère de contrebasse de 1961, n'est pas présente dans l'exposition. En revanche, il y a beaucoup d'autres colères, dont cette White Orchid, qui en font partie et qui, à mon avis, comble largement l'absence de la première.
Des accumulateurs de pipes, machin, c'est assez impressionnant, ça.
Faut-il détailler ce que l'on trouve beau, ce qui est... qui vous réjouit l'œil ? Faut vraiment redétailler ?
À la radio, oui.
Ah. Vous envoyez vos auditeurs voir l'exposition.
Je voudrais qu'on profite de l'œuvre dans laquelle on se trouve, parce qu'il y a une critique pas forcément très gentille du journal Le Monde concernant les œuvres d'Armand et qui parlait d'œuvres alimentaires. Mais est-ce que justement, les œuvres d'Armand ne sont pas aussi alimentaires dans le bon sens du terme ?
Ce que le journaliste du Monde voulait signifier en parlant d'œuvre alimentaire n'a rien à voir avec cette œuvre-là, qui est une sorte d'hommage d'abord au film de Marco Ferreri, La Grande Bouffe, réalisé en 1973. C'est une œuvre qui est un peu l'aboutissement de tout le processus des poubelles qu'Armand initie à partir de 1959, c'est-à-dire que l'idée de faire une espèce de coupe archéologique, comme on fait un carottage dans les sédiments pour retrouver les traces d'une civilisation, finalement, il nous donne ici à voir les traces de notre propre civilisation et de notre mode de consommation.
Moi, je suis quand même une personne âgée et casser les choses, détruire, ça me semblait assez choquant. Bon, encore qu'on ramasse les objets dans une poubelle, moi, je vois ça tous les jours devant chez moi, les poubelles. Je cherche l'art dans tout ça, je ne vois pas beaucoup.
Cette œuvre, elle est faite, comme vous le voyez, de bouteilles de lait, d'éléments déjà plus ou moins décomposés, d'emballages en aluminium ou en plastique, enfin tout ce qui compose précisément notre mode de consommation alimentaire et d'emballage. Et d'une certaine manière, on a là la trace archéologique de cette consommation sans limite.
Est-ce que vous pourriez nous commenter votre œuvre fétiche ?
Je peux parler du Chopin Waterloo, par exemple. C'est une colère, c'est une grande colère d'instruments de musique, en l'occurrence c'est un piano. C'est une œuvre que Armand a réalisée en Suisse, à Stade. C'est pas une performance. Simplement, Armand, en fait, a étudié sa proie pendant à peu près 24 heures, comme celui qui est le judoka, qui étudie son adversaire dans le quart de seconde pour savoir qui il est, quels sont ses points forts, ses points faibles et par où il doit l'attaquer pour lancer son estocade. Et bien, Armand, semble-t-il, a procédé exactement de la même façon, c'est-à-dire à observer l'instrument, à préparer ses outils, de façon à ce que le moment venu, c'est-à-dire le lendemain, il puisse porter le coup fatal qui fait que cet instrument en trois dimensions se soit retrouvé quand même gravement aplati sur ce panneau de bois rouge.
Peut-être que je suis trop classique, hein. Pourtant j'aime bien, je fréquente beaucoup les musées, mais là je ne suis pas émue, je suis plutôt révoltée. Ça me donne envie de casser. Quand je vais rentrer à la maison, je vais casser mon téléviseur, et puis ça va me faire grand plaisir.
Hein. Vous espérez la récolte pendant qu'on est en train de scier le tronc. L'artiste a son importance, mais vouloir se parer des plumes du révolutionnaire me paraît un petit peu naïf de la part de l'artiste.
Armand a été beaucoup critiqué et le sera d'ailleurs demain sous la fourchette des gastronomes de la Grande Table à midi sur cette antenne. Armand a été critiqué, disais-je, pour son aori sacra fames, sa fin sacrée de l'or. Alors parlons d'argent, Jean-Christophe Ruffin, vous avez commencé à le faire d'ailleurs avant notre choc esthétique. Vous dénoncez une politique africaine de la France guidée principalement par les réseaux affairistes dont vous dites en plus qu'ils ne sont même pas efficaces en matière de business. Est-ce que vous pouvez nous préciser un peu cela ?
Non, mais moi, je pense qu'il faut avoir avec l'Afrique, notamment l'Afrique de l'Ouest et nos anciennes colonies, etc., des rapports normaux, c'est-à-dire des rapports... Ça a l'air idiot de dire ça, ça a l'air très simple, mais ce n'est pas si évident d'y parvenir. C'est-à-dire des rapports normaux, c'est quand on fait du business. Par exemple, si nos entreprises sont bonnes, sont les meilleures, ben elles ont les contrats. Sinon, elles ne les ont pas. Je veux dire que c'est pas parce que... Bon, on est aujourd'hui, si vous voulez, dans un marché qui est mondialisé, avec des partenaires nouveaux. Ces pays sont ouverts, pas seulement à la Chine, aux pays du Golfe, aux États-Unis, etc. Et ben, c'est plus un marché protégé. Si vous voulez, c'est un marché. Bon, mais après tout, nos entreprises, elles travaillent dans un milieu compétitif partout dans le monde. Donc pourquoi est-ce qu'elles ne le feraient pas en Afrique ? Je pense que ces réseaux, ces gens qui prétendent nous apporter des faveurs ou des passe-droits en Afrique...
Un certain monsieur Bourgi que vous ne nommez pas, par exemple, et ses amis ?
Les réseaux, en général, si vous voulez, sont inutiles, c'est tout. C'est-à-dire qu'en réalité, ils ne résolvent que les problèmes qu'ils ont créés, c'est tout. Et par conséquent, je ne vois pas à quoi ils nous servent. Et encore une fois, c'est pas une naïveté de ma part de le penser. J'espère qu'il va y avoir une réorganisation profonde quand même de nos moyens d'action, notamment du ministère des Affaires étrangères. Bon, pour l'instant, il n'y a plus de ministre de la Coopération, par exemple. Il a disparu. Alors, on a fait le procès du ministère de la Coopération à un moment donné en disant oui, c'est le ministère de l'Afrique, etc.
Il y avait beaucoup de franc-parler aussi, peut-être.
Oui, mais alors c'est vrai que je veux dire, maintenant qu'il n'y en a plus, dire, on se rend compte quand même que ça manque, qu'il manque une politique africaine, tout simplement.
Et en même temps, vous savez bien, Jean-Christophe Ruffin, que les enjeux économiques sont des enjeux d'avenir.
Et selon vous, face à la concurrence des pays émergents, comment rester implanté économiquement en Afrique? On sait, dès 2008, le Niger avait prévenu les autorités françaises qu'il serait plus attentif aux propositions des groupes concurrents, notamment chinois.
Oui. Ben oui, mais ça c'est comme ça partout. Et si vous voulez, les moyens diplomatiques classiques sont tout à fait en mesure, et puis surtout les entreprises elles-mêmes hein, sont tout à fait capables de négocier leurs contrats. C'est pas si vous voulez l'idée que il faille fausser la concurrence en Afrique pour parvenir à se maintenir. Si vous voulez, c'est une idée totalement archaïque. C'est plus comme ça que ça se passe. Ces pays sont mondialisés. On a en face de nous des concurrents.
Et c'est mais pas ils sont pas toujours fair play quand même. Que ce soit les Chinois, les Brésiliens, les Marocains alors, qui investissent dans l'Afrique subsaharienne.
Oui, alors c'est autre chose. C'est-à-dire que là, il faut effectivement s'assurer, mais ça se fait aussi au niveau du FMI, de la Banque mondiale, etc., que les conditions de la concurrence sont réelles et se font dans de bonnes conditions. Si ces conditions sont bonnes, après que le meilleur gagne. Hein. Je veux dire que c'est pas... je veux dire, c'est une fausse idée, vraiment, de penser que l'Afrique peut rester un domaine réservé. Ça n'est plus vrai. Ça n'est plus comme ça. Même quand on a essayé de le faire, ça, au bout d'un moment, ça craque. Les choses craquent. Les potentats qu'on soutient, etc., ben, ils finissent par se libérer ou par être déposés, etc. Donc je pense qu'il faut vraiment qu'on ait une vision à beaucoup plus long terme, qu'on soit là-bas des Européens et qu'on obtienne une place qui restera de toute façon très importante. Parce que nos communautés françaises, par exemple au Sénégal, on a 25 000 Français. C'est très important. Notre poids, il est de toute façon très important. Et il ne faut pas s'imaginer que les Chinois apportent tout, font tout en tous les marchés. Les Chinois, vous savez, les Africains ne sont pas idiots. Ils voient très bien la qualité de ce qui est proposé, la qualité des matériaux, la qualité des réalisations. Et au bout d'un moment, les stades qui se cassent la gueule et les trucs, bon, ils se rendent bien compte que c'est un marché de dupes. Donc, la qualité, nous, des réalisations françaises, eh ben, c'est ça qui doit nous faire avoir des marchés.
Martin, les chemins qui mènent ailleurs, votre chronique internationale nous révèle un scoop. La Tchétchénie est entrée dans l'UE.
Eh oui, Agnès, la Tchétchénie est entrée dans l'Union européenne. Comment ? Vous ne le saviez pas ? Vous aviez même peut-être oublié jusqu'à l'existence de cette petite république du Caucase, tout à la fois hérissée de montagnes et souplement galbée de collines rondes comme des femmes alanguies. Oui, j'ai bien dit la Tchétchénie, ce confetti de l'Empire soviétique, dont la population est passée de 2 millions d'habitants en 1991 à peine plus d'un million après les deux guerres menées contre elle par la Russie en 1994 et 1999. Car figurez-vous que quelques-uns d'entre les Nokchi ont trouvé refuge dans l'Union. À l'instar d'Ahmed Zakaïev, un ami tchétchène d'Alexandre Litvinenko, ce brave russe assassiné au polonium. Mais comment ces Tchétchènes sont-ils donc entrés dans l'UE ? Par quelle magie ? Est-ce encore un tour de Prométhée, ou plutôt Père Armat, comme on dit là-bas, ce titan, jadis enchaîné au mont du Caucase ? Cela se pourrait, si tant est que le feu prométhéen se soit perpétué dans celui des Lumières et de ce droit de l'homme qu'on appelle asile politique.
L'Union européenne serait donc une sorte d'Hercule délivrant le Prométhée tchétchène ?
Et pourquoi pas, Agnès ? Car sinon, comment expliquer que la semaine dernière, l'indépendantiste modéré, Ahmed Zakaïev, a été libéré d'une prison polonaise et s'est envolé pour Londres, où il jouit depuis 2003 de l'asile politique ? Comment comprendre que cet ancien acteur, devenu soldat, puis vice-premier ministre, a échappé à un mandat d'arrêt international lancé contre lui par le Kremlin.
Résumons-nous, Martin. Si je vous suis bien, l'Union européenne est une héroïne et la Tchétchénie vient d'entrer dans sa famille ?
C'est à vrai dire plus compliqué, je l'admets. La Tchétchénie n'est pas encore le 28e membre de l'UE, pas plus que nous, Européens, sommes des héros. Car Ahmed Zakaïev est en même temps sous le coup d'une procédure d'extradition lancée par Varsovie, qui souhaite se rabibocher avec Moscou. Et le jour même où Ahmed Zakaïev a pu rentrer chez lui, libre en Grande-Bretagne, on apprend qu'une famille de Tchétchènes sans papiers qui vivait à Dijon a été expulsée. L'UE est un Hercule bifronce, un Héraclès au pied d'argile en quelque sorte. Mais les Tchétchènes, après tout, ne sont pas irréprochables. Ainsi, après s'être montré plutôt subtil, voire diplomate sous la présidence d'Abdoul Masradov, puis celle de Kalim Sedoulayev, de nombreux indépendantistes se sont radicalisés et ont opté pour l'islamisme et le terrorisme. Ils n'auraient pas trouvé à leur goût l'assassinat de leur chef d'État et les plus jeunes auraient mal réagi aux exécutions, actes de torture et autres disparitions forcées orchestrées par Moscou, dixit la Cour européenne des droits de l'homme. In fine, il faut bien le reconnaître, aujourd'hui, les Tchétchènes sont des titans pour le moins divisés. Mais si la division est notre apanage commun, voilà encore une bonne raison de faire entrer les Nokchi dans notre belle union.
Merci Martin. Jean-Christophe Ruffin, il n'y a pas qu'entre Moscou, Grozny, Varsovie et Londres que se jouent les bras de fer diplomatiques. Si nous revenons sur le continent africain, le chercheur de l'Institut Thomas More, Antonin Tisseron, pense que la lutte contre le terrorisme passe par une coopération permanente, multidimensionnelle et régionale, qui engage dans une ambition commune les pays sahéliens, les pays maghrébins et l'Europe. Est-ce que vous pensez qu'il manque une politique concertée pour faire face au terrorisme de ces Katibas? Et selon vous, pourquoi ?
Ben oui, bien sûr, tout le monde est d'accord pour dire qu'il faut une politique concertée. C'est bien gentil de dire ça, mais après, il faut regarder avec qui et comment. Alors, il y a au moins trois tentatives d'organiser un petit peu la zone de manière comme ça, sécuritaire, antiterroriste. Bon, il y a les offres américaines qui ont été auxquelles ont partiellement répondu, notamment les Algériens. Il y a les tentatives françaises d'essayer de concerter un petit peu ces différents pays.
Avec l'Union pour la Méditerranée, notamment.
Notamment. Et puis, il y a l'Algérie qui elle, veut plutôt que ce soit elle qui coordonne ses voisins et qui a fait d'ailleurs plusieurs réunions sur son territoire avec ses voisins. Bon, donc, c'est pas du tout évident. Ce qui est certain, c'est que nous, Français, les Américains, c'est pareil, d'ailleurs, ne peuvent pas agir seuls dans des territoires qui ne sont pas à eux, quand même, faut pas l'oublier, et qui ne sont pas, que ça boîte des déserts, c'est pas terra nullius, ce sont des pays souverains. Donc il faut l'accord de partenaires, mais lesquels et comment. Et c'est pas du tout évident. Et un pays comme la Mauritanie, par exemple, qui s'est mis très en pointe en ce moment sur le. Eh bien, c'est une position courageuse du président Abdelaziz, mais il a déjà à faire face à une opposition d'influence un petit peu islamiste, il faut bien le dire quand même, au sein de sa propre république, qui met en cause justement cette option. Donc c'est pas simple. Et la junte nigérienne qui a donc déposé le président Tanja et qui se dispose à préparer donc des élections, un retour à la vie civile, cette junte ne peut pas non plus tout d'un coup remettre son treillis, alors que depuis que plusieurs mois elle essaie au contraire de montrer qu'elle est démocratique, etc., pour mener des actions d'exception. Donc c'est pas évident, c'est une zone très instable, et c'est de ça que profitent justement ces terroristes, parce qu'ils ont très bien compris que dans cette mosaïque de pays, c'est pour ça qu'ils se mettent toujours au Nord-Mali, parce que là c'est une zone où vous avez 4-5 frontières, ils sont tout près, et vous passez d'un pays à l'autre, et vous obtenez comme ça des protections beaucoup plus efficaces.
Et nous nous quittons sur une musique mauritanienne. Merci Jean-Christophe Ruffin.
Merci à vous.
Merci également à Jean-Michel Bourg, Agnès Salle et Céline Janvier du Centre Georges Pompidou.
Vous pouvez vous reporter aux nombreux ouvrages de notre invité, Jean-Christophe Ruffin. Vous avez publié notamment Katiba chez Flammarion en 2010, mais également Rouge Brésil, c'était le prix Goncourt de 2001 aux éditions Gallimard, La Salamande, Le Parfum d'Adam et j'en passe. Et pour ceux qui désirent en savoir plus sur vous, presque tout, Un léopard sur le garrot, Chronique d'un médecin nomade chez Gallimard en 2008.
Chers auditeurs, vous pouvez également tourner autour des poubelles, des colères et autres accumulations d'armements au Centre Pompidou jusqu'au 11 janvier prochain.
C'était Les Retours du Dimanche, une émission produite par Agnès Chauveau
et Martin Kénéen.
Réalisation Jean-Christophe Francis.
Collaboratrice spécialisée et ce soir lectrice Soline Le Désert.
À la technique, Emmanuel Morse-Duncan.
Les Retours vous donnent rendez-vous dimanche prochain et vous souhaitent d'ici là de bien vous amuser, car comme le dit le proverbe gaulois, à beau jeu, beau retour. Et pour ce faire, rien de tel que la toile, où c'est dimanche, même le lundi, puisque vous pouvez réécouter et podcaster ce programme sur franceculture.com.